Drainville PM. Commentaire.
C'est quand même eux autres qui se commandent une enquête sur eux autres-mêmes.
On peut peut-être choisir de le voir de façon négative. Moi, j'ai choisi de voir quelque chose qui se prend en main, qui fait une bonne initiative. Il y a déjà de l'aide sur le terrain qui existe pour ces victimes-là. D'ailleurs, le comité a comme mandat de regarder les moyens qui sont déjà présents. Donc, oui, le gouvernement, par le biais d'organismes, fournit déjà de l'aide à ces victimes-là.
Voici Luc Lavoie.
Alors, c'est Sonia Lebel, la ministre de la Justice, donc, qui commentait ce matin la décision de l'archevêché de Montréal et de trois autres diocèses.
Mais non, j'ai pas identifié la voix. On entendait quelqu'un qui disait, ah, c'est quand même quelqu'un qui commande une enquête sur lui-même.
Oui.
C'était qui, ça?
C'est un journaliste. C'est Louis Lacroix, notre collègue Louis Lacroix, qui posait cette question-là.
Parce que quand tu prends un juge à la retraite de la Cour supérieure, comme Mme Trahan, écoute, tu peux pas affirmer des choses comme celle-là. Je veux dire, Mme Trahan, elle n'ira pas laisser sa réputation à jouer, à servir de
Non, mais ce que Louis voulait dire, c'est que le processus, c'est pas un processus, comment dire, le point de départ du processus, c'est pas l'État, là, c'est l'Église.
Oui.
Tu comprends?
Oui, mais ça m'apparaît...
C'est l'Église qui confie le mandat à une ancienne juge. Visiblement, par ton commentaire, tu penses que cette enquête-là va être crédible.
Ah, ben absolument.
Oui.
Ah non, je pars avec l'idée que c'est crédible. Je connais un peu Mgr Lépine, en plus, c'est un gars sérieux. Ça prend un certain courage pour entreprendre ce qu'il a entrepris là. Peut-être qu'il ne sera plus l'archevêque quand on va connaître les résultats, je ne le sais pas.
Ça se pourrait. Mgr Daoud, qui était assis dans ta chaise il y a un instant, m'a paru aussi très crédible. Et je veux juste dire, Luc, parce que ça vient de tomber, là, Katia Gagnon, Isabelle Haché, Martin Croteau de la presse qui nous apprennent qu'en plus des diocèses de Montréal, Valleyfield, Saint-Jean-Longueuil, Joliette et Saint-Jérôme, là, il y a d'autres diocèses qui viennent d'annoncer qu'ils vont ouvrir eux autres aussi leur dossier et qui vont procéder à un audit, comme on dit, les diocèses de Gaspé, de Rimouski, de Baie-Comeau, peut-être celui d'Amos aussi, à Sherbrooke, diocèse de Sherbrooke, qui sont encore en réflexion. Visiblement, ce processus-là pourrait faire boule de neige, faire en sorte que l'Église du Québec, finalement, fasse son introspection, son examen de conscience et ouvre les dossiers.
Ben c'est à peu près temps.
Hein? Ben mais hein.
Puis je veux dire, ce type d'enquête-là a été fait également aux États-Unis.
Oui.
Il a été fait en Irlande. Et c'est là vraiment qu'on est tombé en bas de nos chaises. Ça fait longtemps, ça fait quand même bien des décennies qu'on entend parler de cas de pédophilie impliquant des prêtres ou des religieux. Ça fait longtemps. Mais depuis qu'est arrivée l'enquête en Irlande, puis l'enquête aux États-Unis, puis que les choses...
Terre-Neuve aussi,
Terre-Neuve
tu te
rappelles? Terre-Neuve aussi, c'était épouvantable, ça. C'était épouvantable, ça. Mais depuis qu'on a appris qu'il y avait aux États-Unis 10 000 victimes recensées et identifiées, c'est là que ça a commencé à mettre de la pression sur le Vatican, pas à peu près. Puis là, il y a eu le cas en France, là, où le pape semble avoir perdu les pédales, Monseigneur...
L'archevêque de Lyon, là.
L'archevêque, le cardinal de Lyon, Barbarin.
Barbarin, oui.
Bon, Barbarin, lui, ce qu'il avait fait, on ne l'a pas accusé d'avoir posé des actes pédophiles lui-même.
D'avoir protégé un pédophile.
Il a protégé un pédophile qui avait été un prédateur absolument incroyable quand on connaît l'histoire. Le pape a décidé de refuser sa démission en parlant de présomption d'innocence. Ah bon, ça, c'est pas fort. Hein? Le pape François, qui a eu un bon début de pontificat, ça va de mal en pis, son affaire. Il a mal géré ça. Il pense l'avoir bien géré, mais c'est comme une gestion de crise. Là. Quand tu fais une gestion de crise, là, tu dis au client avec qui tu travailles, qu'il apprend tous les faits, puis on met sur la place publique. Le meilleur, le pire, la catastrophe, le mieux. Et là, on essaie d'orienter le débat de telle sorte qu'on devient acceptable. Mais là, le pape, là, c'est pas ça. Tu sais, il s'est fait pousser dans un coin. Il a tenu son sommet au Vatican. Il a prononcé des paroles quand même touchantes. Entendez-vous les cris des victimes partout sur la planète?
C'était fort.
Mais en même temps, il fait des conneries comme avec Barbarin.
En n'acceptant pas sa démission.
En n'acceptant pas sa démission. Puis moi, j'aimerais donc ça si on arrivait un jour à faire une entrevue avec Mgr Ouellet au Vatican, qui est après tout le numéro 3 du Vatican.
On ne l'entend pas beaucoup là-dedans.
On l'entend pas. Ben oui, mais il y a un rôle clé.
Ben oui,
lui a confié un rôle d'enquêter sur les cas spécifiques.
Alors, revenons à l'archevêque. D'une certaine façon, lui, c'est ce qu'il fait. Il dit « j'ouvre maintenant les classeurs ».
Oui,
et sais-tu quoi? C'est pas moi qui tiens la clé du classeur. Je remets la clé du classeur à une ancienne juge qui a une crédibilité impeccable.
Oui.
Et donc... mais moi, je me pose la question, Luc. D'abord, je veux juste ouvrir une petite parenthèse. Quand tu dis que ça faisait des années qu'on entendait parler, toi, tu fais référence, je pense, aux rumeurs qu'on entendait, notamment quand on était un peu plus jeune.
Aux rumeurs qu'on entendait. Et moi, j'ai grandi dans une maison où mon père, pour des raisons qu'il ne m'a jamais expliquées, n'avait aucune confiance dans les religieux et nous interdisait, ces garçons, d'aller participer à des activités hors des murs de l'école qui impliquaient un prêtre, la présence d'un prêtre ou d'un religieux
en permanence. Parce qu'il se doutait de quelque chose, tu
penses? Ben, il me le disait pas. Mais évidemment qu'il devait se douter de quelque chose.
C'était pas un anti, c'était pas un anticlérical. Là.
Oui, il était aussi. Il
ouais.
était aussi.
Ouais. Mais il y avait autre chose.
Mais il y avait autre chose. Ouais. Et ça, là-dessus, je me souviens des engueulades qu'il y a eu avec ma mère qui disait « Voyons donc, c'est tous tes préjugés. » Puis il disait « Ils n'iront pas là. » Ils n'iront pas chez les scouts où il y a l'aumônier un tel. Mm. Ils n'iront pas dans la ligue de hockey où c'est un prêtre qui est le président de l'association. Non. Alors ça fait partie des choses aussi à Rimouski. Il y a peu de gens qui se souviennent de ça, mais il y avait eu deux crimes scabreux. D'abord, un à Matane. OK, c'était un prêtre qui avait été tué à coups de masse, une grosse masse sur la tête,
ouais.
par un jeune qui était dans un pensionnat. Et il est devenu évident. Puis le jeune, ça se trouvait que c'était le fils d'un haut fonctionnaire du gouvernement du Québec. Et c'était devenu une histoire invraisemblable. Mais tout le monde a compris à un moment donné qu'il y avait une relation un peu particulière entre ce jeune qui avait 17 ans puis un prêtre.
Il s'était vengé de quelque chose.
Et quelques années plus tard, à Saint-Simon-sur-Mer, dans une résidence qui appartenait à des prêtres, il y a eu un meurtre d'un jeune. Et soudainement, quand la police a commencé son enquête, le religieux qui avait commis la faute était parti en mission.
Le crime, tu veux dire?
Le crime?
Oui.
Il était parti en mission à trois jours d'avis. Soudainement, il est devenu missionnaire en Afrique.
Ouais, ouais.
Et là, ça avait été toute une affaire et tout le monde soupçonnait que... Mais là, on est dans les années 60. Si tu soupçonnes, mais tu te la fermes parce qu'on a encore la visite paroissiale puis paye notre dîme.
L'Église est toute puissante. L'Église est encore toute puissante.
Puis je me souviens, il y avait de la sincérité chez des gens autour de moi qui disaient, ben voyons donc, c'est monsieur le curé, qu'est-ce que tu dis là? Voyons donc, monsieur le curé, patati patata. Et moi, ce que j'avais trouvé, ça, c'était plus... Ça relevait plus des coquineries que d'autres choses. À un moment donné, dans la paroisse Saint-Pédis de Rimouski, ils avaient nommé un assistant au curé, là, ça portait un nom. Ça.
Un
vicaire.
Un vicaire,
le
ouais.
vicaire,
ouais.
qui était un super bel homme.
Oui.
Puis il y avait un couventeur à côté que je fréquentais, l'école Élisabeth Turgeon.
Et quoi, il y avait des rumeurs?
Ben, il y avait des rumeurs, c'est qu'on l'a vu, moi et une groupe de mes chums. Il y avait une clôture, puis l'autre côté, c'était les terres agricoles de l'école d'agriculture.
Oui.
Puis là, ben, il y avait du blé, puis des affaires comme ça. Puis à quoi, on a vu ça bouger, nous autres. On a demandé ce qui se passait. On a sauté par-dessus la clôture, puis il se passait des activités entre le prêtre et la sœur.
C'est vrai? T'as vu ça, toi?
Ben, on n'est pas resté sur les lieux, là.
Mais non.
Moi, je suis rentré chez nous, puis j'ai raconté ça, mon père était content. Enfin!
La vérité.
Il était content parce que c'était pas un prêtre avec un enfant. Il était, tu comprends-tu? Et ça venait confirmer chez lui, mon père a toujours cru que le célibat des prêtres, ça menait directement à ce qu'on est en train de découvrir. Et donc...
Tu vois, moi, j'ai eu une expérience tout autre. Moi, là, je viens de famille catholique.
J'ai jamais eu de problème avec un prêtre
Non, je
même
sais.
Même ceux qui m'enseignaient.
J'ai bien compris ça. Moi non plus, d'ailleurs. Moi, je suis allé chez les frères. Mm-hmm. Même, j'étais au pensionnat.
Les frères des écoles chrétiennes?
Non, frères Claire de Saint-Viateur.
Claire de Saint-Viateur.
Puis j'étais dans un collège, moi, avec pensionnat, là. J'arrivais au dortoir le dimanche début de soirée, puis je couchais là à tous les soirs jusqu'au vendredi après-midi.
Mm-hmm.
Et moi, j'ai jamais eu connaissance de rien.
Oui.
Ça s'est toujours bien passé, mais j'ai eu des confrères par la suite. Ça a commencé à sortir.
Ah.
Oui, j'avais des confrères, effectivement. Puis qui avaient gardé ça pour eux.
Mais...
Ils avaient gardé ça pour eux. Tu vois? Et donc, moi, j'ai toujours été... Je ne sais pas si j'ai été chanceux en quelque part, parce que tu te dis, dans le fond, ça répète moi, là. Finalement, c'était quelqu'un d'autre, là. C'était un confrère, là, tu sais, dont j'étais quand même assez proche, là.
Parce que l'Éclair de Saint-Viateur, il y avait une grosse école d'Éclair de Saint-Viateur à côté de Rimouski, à Sainte-Luce, qui est maintenant un foyer pour vieillards. Et ça, c'était célèbre à Rimouski. Tous ceux qui avaient été pensionnaires chez l'Éclair de Saint-Viateur...
Il y avait des histoires à raconter.
Il y avait un prêtre qui était comme l'infirmier. Uh-huh. Alors, si t'avais des bobos, Tu avais une sorte de petit dispensaire,
ouais,
d'infirmerie ou
ouais,
quoi que ce soit.
Il y avait tout ça dans les collèges.
Oui, ouais, puis ça a l'air qu'il n'y a plus personne qui voulait aller là parce que le prêtre en question, il leur donnait des lavements. Et ça, c'était célèbre dans toute la ville de Rimouski. Si tu vas au clair de Saint-Viateur puis tu te sens mal, ferme-la parce que tu vas avoir un lavement. Mais cas, on rit aujourd'hui, mais c'est une vraie catastrophe sociale, cette histoire-là.
Toi, tu penses-tu que l'Église peut s'en remettre?
Moi, je pense que non.
Ah, il nous reste une minute trente. Tu penses-tu que...
Certainement pas au Québec, mais t'es déjà pas mal cuite. Et à l'échelle de l'Occident, vraiment, là, en Europe, ils sont presque morts. Ils sont morts ici. En Amérique, ça vivote un peu dans quelques coins. Il y a l'Amérique latine qui va être difficile à détrôner, mais sauf que l'atmosphère est en train de changer en Amérique latine. On voit des scandales être révélés là aussi, au Brésil, au Chili.
C'est comme le fondement moral de cette institution qui est en train de s'effondrer complètement.
Ben, c'est ça, et ces êtres qu'on nous présentait comme chargés d'une mission par Dieu étaient au fond des monstres qui abusaient des enfants innocents. Et tu vois, dans le cas de Brian Boucher, là, dont l'enquête était née par Dowd, lui, il violait les enfants. Puis ensuite, il leur disait d'aller se confesser. Ça n'a pas de bon sens.